Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Croza.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1 Écrire, communiquer et collaborer sur le web, donné à l'UTC par Stéphane Croza et dont les supports se trouvent sur librecours.net. En WE1, on aborde des théories relatives aux technologies du web, comme la théorie du support, la raison computationnelle. On apprend aussi à se servir d'outils du web, en mettant en ligne un site web sur un serveur distant par exemple. Et on se penche également sur des outils méthodologiques et des aspects culturels du web. Alors tous les étudiants et les étudiantes de WE1 ont réalisé ce semestre un projet qui consiste à écrire et publier sur le web un dossier thématique qui aborde une problématique technologique du web en utilisant les formats, les outils et les méthodes du web. Alors si vous écoutiez la radio Graphite en début d'après-midi, vous avez entendu la voix de Stéphane et des premiers étudiants courageux qui se sont lancés dans la présentation à la radio de leur intervention, qui était basé sur le projet donc sur lequel ils ont travaillé ce semestre et qui était sur le thème de la low-technicisation du web. Alors maintenant, on lance un deuxième créneau, une deuxième présentation. Je suis Audrey Guélou et puis j'ai le plaisir d'encadrer ce semestre un TD de WE1 et d'avoir suivi le travail donc, de 18 étudiants et étudiantes de ce TD. Et aujourd'hui, je suis avec Lucas, avec Lucie, Solène, Basile et Clément. Bonjour à tous les cinq. Bonjour. Alors vous avez choisi de réaliser votre dossier thématique sur le thème de l'influence mutuelle entre le traitement d'un conflit par les médias numériques et les discussions sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, vous êtes en studio pour nous apprendre des choses à ce sujet. Et pendant ce TD, donc un petit peu spécial, vous ne serez pas les seuls à travailler. Les autres étudiants de ce TD, qui sont bien contents de ne pas passer en premier, seront à l'écoute de votre intervention et ont pour mission de vous poser quelques questions sur Mattermost, donc l'équipe WE1 Canal Projet. Et puis je vous relayerai au micro ces questions. Et puis voilà, vous êtes prêts? On y va? Lucas, à toi la main.
Alors, on le sait, depuis les années 2000, la presse papier a perdu une grande partie de ses lecteurs. Le data journaliste Mathieu Léo rapporte qu'entre 2015 et 2019, Libération a perdu 40% de son lectorat papier. La crise du coronavirus, avec les différents confinements, a elle aussi contribué à cette perte de vitesse. Cependant, ça ne veut pas dire que les gens ne s'informent plus. En effet, chaque année, le support numérique gagne du terrain et développe son lectorat. Pour assurer leur survie, les médias traditionnels ont donc dû s'adapter à cette nouvelle manière de consommer l'information. Par exemple, MindMedia, qui est un service d'information sur la transformation numérique des médias et de la publicité, indique que le journal Le Monde a gagné près de 95 000 abonnés en ligne au premier semestre de l'année 2020, qui correspond à la période du premier confinement. Peu à peu, le lectorat se déplace donc sur Internet, qui est plus facile d'accès. Le format numérique permet également aux médias d'accélérer leurs publications et d'arriver quasiment à l'information en continu. On remarque également que les médias totalement numériques publient beaucoup plus d'articles en ligne que les médias hybrides. Pour illustrer cela, nous avons comparé sur une période de 10 jours, donc entre le 18 novembre et le 28, le nombre de publications du journal Le Monde et de Mediapart. Il en ressort que Le Monde a mis en ligne 226 articles, tandis que Mediapart en a publié 682. Les réactions des lecteurs à ces articles se sont elles aussi déplacées sur Internet, et on le sait, notamment sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, l'année 2021 a été troublée par de nombreux conflits, que ce soit en Afghanistan avec la prise de Kaboul par les talibans, en Éthiopie avec les affrontements entre l'armée régulière et les rebelles tigréens, ou encore au Yémen avec les combats qui opposent les forces gouvernementales aux rebelles houthis et qui a déjà fait plus de 36 000 morts. Ainsi, au cours de ce semestre, nous nous sommes interrogés sur les réactions provoquées par le traitement de ces conflits par les médias numériques et l'influence de ces échanges sur les conflits en eux-mêmes. Alors, avec les années, les conflits ont eux aussi changé de visage et la manière dont les médias les traitent également. De nos jours, la plupart des conflits armés prennent la forme de guerres civiles et l'accès aux zones de conflit est bien souvent très limité, ce qui empêche les journalistes internationaux de rendre compte de la situation sur place. Avec l'arrivée d'Internet, le monde du journalisme et les manières de produire de l'information ont drastiquement changé. Les grands reporters de guerre sont aujourd'hui remplacés par des civils qui deviennent des sources d'informations qui serviront de matériel de base aux journalistes. Il est ainsi possible de rendre compte d'un conflit au moment même où il éclate, car il y a toujours un œil citoyen pour communiquer sur l'événement. Les médias numériques offrent ainsi aux lecteurs la possibilité d'être à la source des articles. Ces nouveaux acteurs vont alors présenter le point de vue des personnes concernées par ces conflits, ce qui vient effacer la distance entre l'information brute et la réalité. De plus, Comme le rappellent Jean-Jacques Bogui et Christian Agbobli dans l'information en période de conflit ou de crise, le pouvoir de la circulation et de la diffusion de l'information des pouvoirs publics se trouve considérablement réduit, aussi bien dans les pays dits démocratiques que dans les pays en voie de démocratisation. Et en effet, grâce à la quasi-instantanéité de la transmission de l'information sur Internet, les possibilités de communication dépassent la capacité de contrôle des gouvernements. Même si chez certains gouvernements, on retrouve encore des répressions et de la censure, l'information finit bien souvent par trouver son chemin. En plus de faciliter la diffusion de l'information, Internet balaie la notion de frontière et permet une diffusion mondiale. Comme le mentionnent Musharraf Zahor et Najma Sadiq dans Media and Armed Conflicts, An Overview, on se retrouve désormais avec une masse d'informations brutes, diffusées à qui veut la voir, et qui permet la rédaction d'articles chocs qui font le tour du monde. On se rappelle notamment d'Alan Kurdi, un jeune réfugié syrien retrouvé mort sur une plage turque en 2015, et dont la photo tristement célèbre avait choqué le monde entier. La multiplicité des sources rend parfois plus complexe le travail des journalistes, qui, à défaut de devoir chercher l'information, doivent désormais la vérifier. À ce sujet, nous allons maintenant passer à un extrait d'un entretien réalisé dans le cadre des Journées de la Recherche de l'entreprise Orange, entre le consultant et blogueur Irénée Regnault et Grégoire Lemarchand, qui est journaliste à l'agence France Presse.
Pour autant, l'AFP aujourd'hui reste, disons, un organisme qu'on croit, quasiment sur parole, puisque c'est votre métier de dire quelque chose est vrai ou faux dans un certain régime de vérité, évidemment. Alors, je reviens un petit peu sur les outils. Donc, j'avais cherché un petit peu ça, trouvé. Alors, on avait le décodex au monde, First Draft, avec vous, sur lequel vous avez travaillé, cross-check. Comment ça fonctionne, en fait? Quelle infrastructure, quels outils vous avez mis en place et quel processus vous mettez en place aujourd'hui pour un peu réguler cette machine?
Disons que c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui avec une multiplication des plateformes. On parle beaucoup de Facebook, mais il y a Twitter, il y a Reddit, il y a YouTube. Voilà, on se retrouve avec une surabondance de contenu, de choses, effectivement, sur lesquelles on doit avoir un œil, sur lesquelles on doit travailler, sur lesquelles on doit chercher, vérifier, trouver, authentifier. Et ça devient effectivement un travail extrêmement dur. Et justement, sur le thème des fake news, on en est rendu très vite à la conclusion que si entre médias on collaborait pas, sur face à ça, on allait perdre la guerre. Vraiment, la guerre face aux fake news. C'est-à-dire que les médias, évidemment, comme dans n'importe quel secteur, sont en concurrence. On va avoir le scoop, on va avoir l'interview exclusive. Finalement, sur les fake news, il n'y a pas de concurrence pour dire moi je suis le premier à vous dire que c'est faux. Et First Draft, à laquelle tu faisais allusion, First Draft, c'est une association de qui regroupe des médias internationaux, mais aussi des réseaux sociaux, des chercheurs, des ONG. Et l'idée, c'est de mettre au pot commun, voilà, tout ce qu'on peut faire pour mieux réagir face à la désinformation, à la manipulation. Et c'est pour ça que voilà, on avait monté en France quelque chose qui s'appelait Cross Check, où on a eu un focus particulier sur l'élection présidentielle. On a essayé, on en parlait à l'instant, de prendre tous les faux, toutes les manipulations, toutes les rumeurs, et prendre une à une et d'expliquer pourquoi c'était faux ou c'était décontextualisé, etc. Mais rien n'est gagné.
Merci beaucoup, Lucas, pour ta présentation très claire, pour cette introduction. Alors, écoute, j'ai deux questions qui nous viennent, plusieurs questions qui nous viennent, donc des étudiants et des étudiantes qui t'écoutent dans le TD. Alors, Léo se demande si une information provenant d'un civil sur place est nécessairement de meilleure qualité que celle provenant d'un grand reporter de guerre. C'est vrai qu'on parle de la guerre d'information et tu nous expliquais que les informations venaient des personnes sur le terrain et qu'il était aussi difficile donc de trier les informations du fait de leur abondance puisqu'elles peuvent provenir de tout civil sur place. Alors voilà, je répète la question, une information provenant d'un civil sur place est-elle nécessairement de meilleure qualité que celle provenant d'un grand reporter de guerre ?
Alors, d'un point de vue journalistique, l'information ne sera peut-être pas de meilleure qualité. Mais en tout cas, elle traduit quelque chose de vrai. Elle traduit vraiment un vécu qui ne pourrait jamais être transcrit par un journaliste extérieur à un conflit. Voilà.
Oui, oui. Et donc, tu réponds également à la question de Danaël qui se recoupait avec celle-ci. Alors, j'ai simplement une seconde question donc de Florine, qui est une question davantage en rapport avec le support numérique, donc le support du web pour la transmission de ces informations. Est-ce que vous pensez, donc elle s'adresse aussi à tous les cinq, hein, est-ce que vous pensez que le format papier assure une vérification du contenu plus importante que le contenu posté sur le web et du coup assure une crédibilité des informations que l'on n'a pas forcément avec les informations postées sur le web. Quelle est l'influence ici du support numérique et du web sur la transmission de l'information, peut-être son interprétation, son contexte, sa crédibilité ?
Bon, je vais répondre. Je pense que ce qui joue principalement, c'est surtout les délais de publication. Quand on doit faire paraître un article à l'écrit, ça prend beaucoup plus de temps, donc on est plus sujet à de la vérification. Sur Internet, publier un contenu, c'est souvent très rapide, ça va très vite. Et donc, on peut sauter des étapes, et notamment des étapes de vérification. Et du coup, peut-être que la presse écrite a encore ce gage de, disons, qualité de l'information que n'a pas encore la presse numérique.
D'accord, donc là tu nous parles en effet du phénomène d'éditorialisation de tout ce travail qui va être fait avec la presse papier. Ok, bon, alors on enchaîne, merci beaucoup Lucas. On enchaîne sur la partie de Lucie. Lucie, tu te lances sur également la fiabilité des sources et puis la diffusion des informations également sur Internet et l'influence que ça a sur les conflits. Lucie, tu as le micro, je t'en prie, quand tu es prête, tu peux y aller.
Donc, comme l'a expliqué Lucas, l'arrivée d'Internet a bouleversé les médias et notre manière de nous informer. En 2019, d'après Sophie Amsili et Florian Motion pour Les Échos, 57% des 7,7 milliards d'humains sur Terre sont connectés au monde via Internet et les informations circulent quasi instantanément. Le grand nombre d'utilisateurs et la vitesse de transmission de l'information entraînent une actualisation quasi permanente des réseaux sociaux ainsi que des fils d'actualité rapidement submergés par différents articles. Un internaute peut alors avoir du mal à gérer toutes ces informations. En effet, le flot d'informations est trop conséquent pour que le lecteur l'intègre complètement, comme l'explique la RFC 1855. Ainsi, le lecteur doit réussir à faire le tri et être conscient qu'il ne pourra pas ingérer toute l'information, ce qui est souvent compliqué car le monde ne se met pas en pause quand on arrête de s'informer sur un conflit. De plus, dans son ouvrage « L'information à tout prix », Julia Cagé a quantifié l'usage du copier-coller dans les médias en ligne. Elle a trouvé que plus de la moitié des articles présentent moins de 20% de contenu original. Il a donc été démontré que le copier-coller est très présent dans les articles et leur fait perdre leur originalité. On est alors exposé à un contenu très large, mais pas forcément diversifié et original. On peut parler d'une uniformisation de l'information. On sait aussi qu'il est compliqué de traiter un sujet rapidement et de manière objective, comme l'explique Émile Zola en 1889 dans sa préface de La Maurrasse. Le moindre fait peut être commenté, amplifié et prendre une importance démesurée, ce qui peut nuire à la qualité de l'information. Sur Internet, il existe un pluralisme politique qui fait que toutes les opinions peuvent être publiées et lues. Ce qui peut aussi être problématique car certains internautes ne sont pas forcément formés à l'esprit critique. Ils prennent les informations qu'on leur donne telles qu'elles sont, sans forcément essayer de les remettre en contexte. Les décodeurs du journal Le Monde nous explique qu'il n'existe pas de source qui ne se tromperait jamais et de source qui serait tout le temps dans l'erreur. Ainsi, lorsque l'on parle de conflit, une personne ayant lu un article peut se croire informée et commencera à débattre sans vraiment connaître toutes les facettes du problème. Il est évidemment impossible d'être informé sur l'intégralité d'un conflit, mais vérifier ses sources et contextualiser le conflit peut permettre d'éviter les conclusions hâtives et fausses. Il faut donc essayer de sensibiliser les internautes aux fausses informations pour éviter la désinformation. L'internaute doit pouvoir faire la différence entre sources fiables ou non, mais prendre du recul peut être assez compliqué dans un environnement où les sources ne cessent de se multiplier, vu que chaque individu peut être source d'information. De plus, l'information erronée est souvent mêlée à des informations fondées, ce qui la rend plus difficile à détecter. Bien sûr, cette vitesse de transmission des informations a ses avantages. On peut par exemple très facilement communiquer avec une personne à l'autre bout du monde. Néanmoins, Internet reste décentralisé et le partage de l'information n'est pas régulé, ce dont il faut être conscient.
Merci, merci Lucie, merci pour ta partie. Alors, tu nous expliquais, on a quelques questions qui arrivent, tu nous expliquais que, on avait un besoin de sensibiliser les internautes au fait de savoir déterminer quelle source était plus ou moins fiable. C'est vrai que c'est un travail qui n'est pas évident maintenant. Est-ce que tu as quelques conseils, est-ce que tu as quelques tips personnels, toi, pour savoir différencier les sources fiables ou non? Comment est-ce que tu t'en sors sur Internet parmi cette abondance d'informations, et que pourrais-tu conseiller à nos auditeurs à ce propos?
Je pense que déjà, quand on lit un article, il faut voir si les données sont sourcées. Enfin, certains articles ne donnent même pas leur source, donc ça, c'est déjà un premier indice. Et après, vérifier la source, donc aller voir sur le lien qui est donné et rechercher et lire soi-même la source pour vérifier que c'est bien ça. Et donc, si le travail est bien fait, normalement, c'est bon. Et je pense que, surtout quand la source n'est pas donnée, c'est vraiment un indice que c'est pas forcément fiable. Mais s'il y a une source et qu'on la vérifie, c'est bon, je dirais.
Ouais, ok. Donc aller creuser, aller voir l'origine de l'information, croiser les sources, d'accord. Ok, merci. Alors en effet, tu vois, Léo se posait à peu près la même question et se demandait si ce n'était pas également le rôle de la plateforme d'effectuer ce tri. Ça peut être une question un petit peu sensible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que cette plateforme, après, d'effectuer un tri ou de filtrer, ça peut avoir des bons mais des mauvais côtés? Qu'en pensez-vous? Ouais, Céline, tu veux prendre la main?
C'est un problème vraiment d'actualité. Je sais qu'il y a eu, avec notamment le Covid, il y a eu énormément de fake news qui sont apparues ces derniers temps. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question, mais de plus en plus, les gouvernements veulent que les plateformes comme Facebook, Twitter prennent leurs responsabilités et s'engagent contre les fake news. Donc, ils tentent de filtrer à minima, mais c'est très difficile, vu la quantité de l'information, de lutter contre toutes les fake news.
Merci, merci Céline. Oui, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, non.
C'est bon. Ok. Écoutez, c'est un sujet qui nous amène à un flot. On parlait de flot d'informations, mais un flot de questions. Lucas qui se demande si l'abondance de fake news n'est-elle pas aussi le résultat de la course à l'information et au scoop. Est-ce que vous voyez un lien de cause à effet entre l'abondance de fake news et puis cette recherche de scoop, qui a peut-être aussi une autre origine? Qu'en pensez-vous? C'est une large question.
Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Après, je ne sais pas si c'est lié, mais disons que je pense que c'est surtout la surutilisation des réseaux sociaux qui amène du coup à l'abondance de fake news, enfin des réseaux sociaux, mais également de tout ce qui va être média social de manière générale. Mais après, bon, le principal souci, c'est que ces réseaux sociaux, ces médias sociaux sont devenus vraiment une source d'information pour les médias plus traditionnels, même enfin tout ce qui va être médias numériques, etc. Donc, je pense pas que le problème vienne vraiment du média, mais plutôt vraiment des réseaux qui où pullulent vraiment ces fake news.
Merci beaucoup, Lucas. Merci, merci à tous les trois pour vos réponses. Alors, je vois vos questions, Lucas. Donc, Manon, Léonie, merci pour vos questions. Je pourrais les garder. On va les garder pour la suite. Elles sont intéressantes aussi. Et puis, on va poursuivre. Donc, eh bien, Solène, justement, tu veux parler des réseaux sociaux. Tu veux élaborer un petit peu plus sur cette partie-là?
Bonsoir. Donc, je vais aborder les aspects plutôt négatifs des réseaux sociaux pour la diffusion de l'information à propos des conflits mondiaux. Tout d'abord, on peut remettre en cause l'exhaustivité des ressources consultées par les internautes sur les réseaux sociaux. En effet, les internautes sont enfermés dans des bulles de filtres. Pour cette partie, je tiens mes informations principalement de l'article « Isolated in Online Social Spaces, The Filter Bubble Algorithm » écrit par Sruti Medepalli et Alara Dasdan sur le site lhcpic.com. Les algorithmes de recommandation des différentes plateformes sont à l'origine des bulles de filtres. Ces algorithmes déterminent les préférences de l'internaute à partir de ses recherches, de ses posts likés ou de ses connaissances, puis lui proposent un contenu uniformisé par rapport à l'estimation de ses convictions. Le but est que l'utilisateur reste le plus longtemps sur la plateforme, donc lui proposer ce qu'il aime semble être un moyen efficace pour cela. Toutefois, cela complexifie l'accès à une description objective et complète d'un conflit. De plus, Nishit Vishnois, professeur à l'université de Yale, explique que l'internaute ressent un sentiment de familiarité et de confort dans les bulles de filtre. Cela le rend hostile à une opinion inverse car il n'a pas l'habitude de les rencontrer. Cela peut en partie expliquer les réactions extrêmes de certains internautes lorsqu'ils défendent leur point de vue, comme des insultes, voire des menaces de mort. En effet, les discussions sur les réseaux sociaux, en particulier à propos de sujets polarisés comme la politique ou les conflits mondiaux, sont souvent houleuses. En plus des bulles de filtre, la désinhibition sur le web participe à ces tensions entre internautes. Tout d'abord, qu'est-ce que la désinhibition ? On peut définir la désinhibition comme un comportement impulsif et éloigné de notre façon d'agir ordinaire. On pense souvent aux manifestations négatives comme la violence verbale, car c'est le plus visible sur les réseaux sociaux, en particulier lors des débats. Cependant, la désinhibition peut aussi être positive, comme une facilité à se confier, à partager ses sentiments. Pour expliquer les causes de la désinhibition, je vais reprendre celle décrite par John Suller, professeur de psychologie à l'université Rider, dans son article « Online Disinhibition Effect ». D'après lui, l'anonymat rassure les internautes et leur donne un sentiment d'impunité. Ils ont l'illusion d'être intraçables et que leurs propos n'entraînent aucune conséquence. De plus, il explique que l'invisibilité sur Internet contribue aussi à cette désinhibition. Par invisibilité, John Suller évoque le fait qu'on communique par écran interposé et non en face-à-face physique. Ainsi, la peur de la confrontation et du jugement des autres est réduite. Le caractère asynchrone des discussions sur le web accentue aussi ce sentiment. Ensuite, John Suller évoque le sentiment d'égalité entre les internautes qui permet à ces derniers de se sentir plus libres d'agir. Enfin, il est très facile et rapide de publier un post sur les réseaux sociaux. Par conséquent, un internaute peut réagir impulsivement et écrire ne pense pas vraiment. Ces derniers seront instantanément partagés. Cependant, l'internaute n'a pas un contrôle absolu sur la diffusion de ses posts. Même s'il le supprime par la suite, le post peut devenir viral pendant la courte durée pendant laquelle il est en ligne. D'autres internautes peuvent faire des screenshots et le repartager, et le post peut rester sur Internet. Pour conclure, les bulles de filtre et la désinhibition participent à la création d'espaces très polarisés au sein des réseaux sociaux. Les internautes reçoivent des informations conformes à leurs préférences par les bulles de filtre et créent eux-mêmes du contenu dans cette bulle en défendant violemment leurs idées par désinhibition. Pour finir, nous allons écouter Romain Badouard lors d'une conférence intitulée « Le désenchantement de l'Internet, désinformation, rumeurs et propagande » qui a été publiée par l'Université de Nantes sur YouTube en licence Creative Commons, qui évoque les méfaits des bulles de filtre sur la démocratie.
Pendant la campagne sur le Brexit, après plutôt la campagne sur le Brexit, la rédactrice en chef du Guardian, donc le journal de référence au Royaume-Uni, Catherine Wiener, a publié un long papier qui s'appelait « How Technology Disrupted the Truth », comment la technologie a piraté la vérité. Donc c'est elle, la première, qui dans ce papier parle d'air post-vérité, pour parler du débat public sur Internet. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Catherine Wiener ? Elle nous dit « Mais moi je suis journaliste, moi aussi je m'informe beaucoup sur les réseaux sociaux ». Sauf que sur les réseaux sociaux, je suis journaliste au Guardian, bon, voilà, concrètement je suis du progressiste, plutôt de gauche, etc. Donc mes amis sur Facebook, ils me ressemblent. Pendant la campagne, je n'ai vu que des informations en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Je n'ai pas vu les pro-Brexit, je ne les ai pas vus sur Facebook. Donc ça m'a conforté dans cette idée que c'était impossible que les citoyens britanniques votent pour sortir de l'Union européenne. Même remise en cause, après la campagne électorale aux États-Unis, du côté du New York Times cette fois-ci, où les journalistes, de la même façon, ont dit « pareil, on est des New-Yorkais, démocrates, progressistes, nos amis sur Facebook sont comme nous, on n'a vu que des informations anti-Trump circuler sur Facebook, alors même que les informations pro-Trump étaient très nombreuses, mais juste ils ne les voyaient pas, elles n'étaient pas visibles ». Et donc ça les a confortés dans cette idée que c'était impossible que Trump l'emporte. Et donc c'était vraiment ça qui a fait débat, cette idée qu'on reste dans des bulles idéologiques sur les réseaux sociaux, puisqu'on voit les informations de nos proches, qui sont celles qui nous ressemblent. Et comme je le disais tout à l'heure, pour qu'un débat public fonctionne en démocratie, il faut qu'il soit contradictoire, il faut qu'on soit confronté à ceux qui ne pensent pas comme nous. C'est quand même ça, c'est un point central en démocratie.
Merci Solène pour cette partie. Donc, tu nous as beaucoup parlé des conflits qui existent sur les médias sociaux, donc du phénomène des bulles de filtre, de la désinhibition sur ces médias sociaux également. Alors ça nous a soulevé quelques questions donc, sur Mattermost. On a par exemple la question de Danaï qui se demande quels sont les moyens d'outrepasser ces bulles de filtre. Alors, tu nous as bien expliqué les mécanismes, comment elles sont construites, ces bulles de filtre, dans quel intérêt. Et maintenant, est-ce qu'il existe tout de même des moyens pour les utilisateurs, les utilisatrices de médias sociaux de s'en sortir, de trouver des moyens de passer à côté, de ne pas se laisser enfermer dans ces bulles de filtre-là?
Alors, pour les réseaux sociaux, c'est très compliqué parce que dans la façon dont on a de les utiliser automatiquement, quand tu suis quelqu'un, ça va te recommander. Pour les recherches sur le web, c'est beaucoup plus simple. En utilisant des moteurs de recherche comme Quant, ça permet de passer à travers. Je pense que le meilleur conseil, c'est d'être toi-même curieux et d'avoir conscience de ces bulles de filtre et de se dire « Ok, ça, c'est mon point de vue, mais qu'est-ce que pense l'autre partie ?» et d'essayer de voir les deux côtés.
Merci Solène, merci. Ouais. Et alors, tu vois, dans l'autre sens, on pourrait se dire, bon, mais les bulles de filtre servent, tu l'expliquais, hein, qu'elles mettent les utilisateurs et les utilisatrices dans une forme de confort, c'est confortable d'être dans sa bulle de filtre. Alors, une question qui nous vient, qui peut venir ensuite, c'est si un réseau social sans algorithme de recommandation peut attirer les utilisateurs, aussi dans l'autre sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les cinq, c'est Léo qui se demande ça. Est-ce que ça peut fonctionner, un média social qui ne serait pas simplement fondé sur voilà, ce phénomène de bulle de filtre, de jeu d'addiction, d'attraction de l'attention aussi?
Je pense qu'il y a un public. Je pense notamment à Reddit, qui ne fonctionne pas vraiment sur ce qu'on apprécie, mais sur ce qu'apprécie la masse. Donc ça permet d'éviter un peu la bulle de filtre, en tout cas personnelle. Et je pense qu'il y a des gens qui sont curieux et qui veulent découvrir d'autres facettes. Donc, ça ne marcherait pas pour la masse d'utilisateurs friands de Facebook et Twitter. Par contre, je pense que ça trouvera son public.
Oui, merci Solène. Et en effet, peut-être que ça répond aussi... Enfin, on touche à la question de Guillaume qui se demande pourquoi des entreprises comme Facebook devraient limiter les bulles de filtre si leurs effets sur leurs utilisateurs leur sont très bénéfiques. Eh bien oui, ces effets sur les utilisateurs sont bénéfiques, en tout cas pour les entreprises qui gardent les utilisateurs sur ces plateformes. Mais Guillaume, comme tu entends Solène, il est possible d'aller voir sur d'autres plateformes qui n'utilisent pas les bulles de filtre, puisque les entreprises qui les utilisent n'ont pas forcément d'intérêt à cesser ces effets-là où elle est limitée. Bien, alors on a d'autres questions super intéressantes que nous pourrons garder pour la suite, puisque on tient le timing. Mais merci à vous d'être si actifs sur Mattermost. Alors Basile, tu vas enchaîner aussi, tu vas toujours nous parler des réseaux sociaux et tu vas nous parler d'aspects un petit peu aussi positifs par rapport au conflit. C'est ça, super, à toi ouais. La main Basile.
Comme ça a déjà pas mal été dit par mes camarades, les réseaux sociaux ont pris une énorme importance dans ces dernières années et notamment dans le débat public, puisqu'aujourd'hui ils permettent à la fois de véhiculer massivement des informations et ils permettent aussi pour de nombreuses personnes de recevoir l'information. C'est également un moyen par lequel l'opinion publique peut s'exprimer en masse. Et donc, on va pouvoir s'intéresser à la manière dont Internet et les réseaux sociaux nous permettent de nous exprimer et de nous informer. Donc déjà, ces dernières années, on a pu voir à plusieurs reprises que les réseaux sociaux donnent une voix à la population et parfois même lancent des mouvements à l'échelle nationale, parfois à l'échelle mondiale. L'exemple, je pense, le plus parlant de ce phénomène, c'est le mouvement MeToo. Donc c'est un mouvement qui a pris en ampleur en 2017 après l'affaire Weinstein et qui regroupait en particulier sur les réseaux sociaux les témoignages des victimes d'agressions sexuelles. Et donc c'était grâce au hashtag MeToo qui en France a été repris en hashtag Balance ton porc. Dans un article de la revue Esprit en 2018, Véronique Naoum-Grapp compare ces hashtags à des portails. C'est-à-dire que ce sont des portails qui permettent d'agréger tous les messages différents qui ont un rapport avec un thème commun. Et leur effet s'exprime très facilement lorsqu'on voit que le mouvement MeToo a réuni plus de 500 000 témoignages en quelques semaines seulement, simplement sur Twitter, sur le hashtag MeToo. Donc ça nous montre bien que les réseaux sociaux ont une énorme puissance lorsqu'il s'agit de lancer des mouvements de grande échelle et lorsqu'il s'agit de partager la parole de la population. Toutefois, il faut quand même remettre les choses en perspective puisque parmi les 500 000 témoignages, finalement, la majorité ont été complètement invisibilisés par la masse de témoignages qui ont été partagés lors de ce mouvement MeToo. on a pu quand même voir, à la suite du mouvement MeToo, qu'il n'y a pas eu un changement radical dans notre culture en ce qui concerne les agressions sexuelles, mais quand même une libération de la parole. Libération de la parole des victimes d'agressions sexuelles. Et notamment, en début d'année, on a eu un exemple parmi tant d'autres qui était les accusations portées à l'encontre d'Olivier Duhamel. C'était en janvier 2021, plutôt. Maintenant, je vous propose qu'on parle de l'usage d'Internet lorsqu'il s'agit de s'informer. Puisque de plus en plus de personnes s'informent via Internet et non via les médias traditionnels. Et donc, c'est une source d'information qui est extrêmement dense, la plus dense possible. Donc, on part du principe, évidemment, puisqu'elle est dense, qu'il y a une grande variété de sujets abordés et qu'on peut avoir également un pluralisme en termes de points de vue. Donc, ce serait normalement une manière plus efficace de s'informer. En revanche, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, pour aborder ce sujet, je vous propose de nous intéresser à l'étude d'un groupe de chercheurs qui date de 2010, qui était une étude statistique regroupant de nombreux articles venant d'une variété totale de sites internet. Donc l'objectif de cet article, c'est de voir dans quelle mesure internet garantit le pluralisme de l'information auquel on peut penser en considérant la densité d'informations qu'il y a sur internet. Donc par exemple, ils sont penchés sur plusieurs dates dans l'année 2008, et notamment le 6 novembre 2008, ils ont récupéré une grande quantité d'articles, 2600 au total, des articles qui viennent de sites de presse traditionnels, de sites de portails d'actualité, de blogs aussi, de sites collaboratifs. Finalement, ils sont allés un petit peu dans tous les recoins d'Internet chercher uniquement ces articles. Et en regroupant ces articles par sujet, ils ont réussi à discerner 309 sujets différents abordés sur une seule journée et uniquement sur donc des articles qui sont tous francophones. Mais très rapidement, ils se sont rendus compte que les sujets étaient très concentrés. 16% des articles qu'ils ont réussi à réunir portaient sur l'élection américaine. C'était deux jours après l'élection de Barack Obama, donc en 2008. Et 16% des articles portaient sur cette élection. 7% des articles portaient sur le congrès du Parti socialiste qui avait aussi lieu dans les jours qui précédaient. Alors que 50% des sujets qui ont été abordés n'ont été abordés que par un seul article. Donc finalement, on a beaucoup de sources d'informations, mais qui se concentrent pour la plupart sur les mêmes sujets. Donc les sujets qui sont moins mis en avant sont plus dispersés. Et même si on a une variété de sujets abordés, finalement, on n'y accède pas très facilement, car la plus grande quantité de sources se concentre sur les sujets les plus mis en avant, les plus importants pour eux. Ensuite, ils se sont dit, puisqu'on a autant de sources d'informations pour un même sujet, on va regarder si ça nous permet d'avoir un pluralisme en termes de points de vue, en termes de traitement de ces sujets. Pour ce faire, donc, ils ont eu des résultats assez surprenants. Ils ont mis en relief donc, la redondance des articles entre eux avec la répétition de segments de phrases d'un article à un autre. Et le résultat que ça a donné sur la journée du 6 novembre 2008, c'est que par exemple, on a un segment de phrase de 11 mots. Obama, le premier président noir élu face à des défis colossaux, qui est un énorme segment, qui a pourtant été répété dans 27 articles différents pour cette phrase-là. Donc, c'est le cas également pour d'autres segments de pareil, 10, 11 mots qui sont répétés dans des dizaines d'articles différents. Et ils sont allés chercher quels étaient les principaux acteurs de cette redondance. Donc, en priorité, on a évidemment tous les portails d'actualité, MSN, Yahoo, Orange, qui en fait recopient simplement les articles. Donc c'est normal qu'on ait de la redondance en termes de phrases puisqu'ils simplement donnent accès aux articles sur leur site. On a l'AFP qui est reprise dans de nombreux articles également de la part des différents médias. Et les suivants sur la liste, ce sont les chaînes de télévision et en particulier France 2 et France 3 qui, lorsqu'elles sortent un article, finalement ont un modèle très similaire à ceux de l'AFP. Donc on a une redondance entre le contenu de leur article et le contenu des dépêches de l'AFP, et finalement, pas beaucoup de traitement de l'information. Du côté des informations plus diverses et moins redondantes, en général, ça va être les sites plus intimes, plus personnels, comme les blogs, ou les sites participatifs, qui, en général, font appel à un traitement plus important de l'information et à un point de vue plus personnel. Et ensuite, quand même, la presse traditionnelle, avec en tête de liste Le Journal du Dimanche, Le Point et Les Échos, qui sont donc des journaux qui se distingue des autres et qui nous donne une information quand même plus diverse en termes de formulation. Donc ce qui ressort, c'est qu'en général, la redondance de l'information, elle est liée à une volonté d'être très réactif, d'avoir l'information le plus rapidement possible et également d'être exhaustif et de couvrir un maximum de sujets différents, tandis que les informations moins redondantes, en général, ce sont des informations plus traitées qui apportent soit une réflexion, soit une critique sur le sujet abordé. Donc en résumé, Internet nous permet d'avoir une information très dense, mais ne garantit pas toujours la variété et le pluralisme des informations qui nous sont présentées.
Basile, merci beaucoup pour cet argumentaire très précis, très documenté, et pour la retranscription de cet article. Merci. Alors, tu vois, en argumentant ainsi, tu as pu répondre, je pense, mais vous pouvez bien sûr, je vous invite à compléter ce que je veux dire, mais je crois que tu as très bien répondu aux questions qui sont apparues un petit peu plus tôt, les questions de, par exemple, de Léonie qui se demandait si le fait d'avoir des articles sur le web ne permettait pas de débattre sur une thématique et donc d'avoir des connaissances plus globales sur un sujet. Tom qui se demande aussi si Internet est réellement plus propice au pluralisme des points de vue et qui fait le lien donc au vu de l'existence des bulles de filtre. En fait, donc tu expliques que pour le pluralisme, c'est pas exactement ça. Mais j'aime bien cette question de Tom juste sur voilà, est-ce que malgré tout, est-ce que Internet donc est réellement plus propice au pluralisme des points de vue au vu de l'existence des bulles de filtre? Ça croise un petit peu vos deux parties, tous les deux, Solène et Basile. Je ne sais pas si vous souhaitez.
Je peux commencer. Les bulles de filtre, en fait, la différence, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est principalement là-dessus qu'elles se situent. Si on s'informe par le biais de sites de médias traditionnels, l'information qu'on va recevoir va simplement dépendre de ce qu'on suit comme type de média. Donc il est facile d'aller par exemple de Libération au Figaro pour avoir des points de vue différents, mais c'est plutôt sur les réseaux sociaux que les bulles de filtre vont nous empêcher d'accéder à cette information plurielle.
Oui, merci Basile, d'accord. Et alors, tu vois, j'ai une question un petit peu radicale de Léonie qui se demande si, parce que tu as parlé d'un sujet politique, par exemple, tu as pris le sujet d'Obama. Léonie qui se demande, est-ce que vous pensez qu'il faille censurer la politique sur les réseaux sociaux? C'est une question d'opinion, mais pas tellement. C'est pas, je vois vos têtes perplexes.
Ouais, c'est une question très radicale en effet, puisque actuellement la politique, ça représente quand même quand on regarde les tendances en général sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou d'autres, c'est souvent parmi les sujets les plus traités justement, et ça permet quand même à beaucoup de personnes, même si l'information n'est pas la plus précise possible, de se tenir informé quand même des événements politiques dans le pays pour ceux qui suivent pas forcément les médias traditionnels.
Oui, je vois, d'accord. Merci Basile pour toute cette partie. Alors, je reprends, parce que tu as abordé deux choses très importantes dans ta partie. Tu as parlé donc des points positifs, des médias sociaux, des bénéfices des médias sociaux par rapport au conflit, à la liberté de s'informer, pardon, à la possibilité de s'informer. Tu as dit que ça pouvait augmenter la possibilité de s'informer et puis que ça pouvait aussi libérer la parole quand tu as parlé du mouvement MeToo. Et ça m'a fait penser à justement ces phénomènes d'agrégation de contenus, par exemple autour d'un hashtag, et de ce phénomène qui consiste à rendre visible soudainement un thème ou alors de concentrer toute l'attention sur, ça peut être une personne. Et donc ça, on va recroiser aussi un phénomène qui est pour le coup néfaste de ces médias sociaux-là, où là, pour le coup, on peut avoir ce que l'on appelle, ce qui est appelé les formes de tribunaux des médias sociaux, où là, pour le coup, ça fait le lien avec ce que l'on appelle aussi la cancel culture, où soudainement, on a quelqu'un qui concentre l'attention et qui peut se sentir soudain menacé par toute l'attention de milliers de personnes qui vont échanger de façon bien pas très tendre forcément sur un sujet. Alors, lorsqu'on a un phénomène comme ça de tribunal des médias sociaux qui se met en place, eh bien, on a la question de la responsabilité, justement, des plateformes ou bien des utilisateurs qui participent à ces mouvements-là. C'est la question d'Armand qui se demande qui faudrait-il rendre responsable des contenus insultants, par exemple, lorsqu'on a des phénomènes comme ça. Est-ce que ce serait plutôt les plateformes, les utilisateurs qui envoient ces messages-là? Selon vous, comment ça se passe? Oui, vas-y Solène.
Pour moi, c'est principalement les utilisateurs. Un exemple, c'était pour le cas de Mila sur Twitter, qui a amené pas même beaucoup de jeunes aux tribunaux qui ont été jugés coupables. Si on suit la charte d'utilisation des plateformes, le contenu insultant et l'harcèlement est interdit. Donc, les plateformes, idéalement, devraient lutter contre ce genre de contenu. Concrètement, elles ne peuvent pas faire grand-chose. Et c'est donc aux utilisateurs de savoir que les menaces de mort, les insultes, n'ont pas lieu d'être ici et donc de se contenir. Et après, ils sont jugés comme ils le méritent, je suppose.
Oui, oui, merci Solène. En effet, les tribunaux, après, ça mène au tribunal de la vraie vie.
Oui, exactement.
En effet, bon. Merci beaucoup à vous pour cette partie-là. Merci Basile donc, et Solène. Alors, Clément, tu vas clôturer cette belle intervention jusqu'ici. Eh bien, je te laisse prendre la main quand tu es prêt. Clément, à toi.
Bon, bonsoir à tous. Donc, je vais aborder l'influence des réseaux sociaux sur les conflits. Donc, tout d'abord, on va parler du cyberactivisme. Donc, les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter sont le théâtre d'un débat permanent sur les différents conflits et engendrent une réflexion à grande échelle. Donc, cette possibilité qu'offrent les réseaux sociaux pour communiquer aux quatre coins du monde a permis l'émergence du cyberactivisme. Donc, qu'est-ce que le cyberactivisme ? Eh bien, c'est l'utilisation des moyens de communication sur le web pour créer un mouvement activiste. Donc, il regroupe des personnes partageant un même avis sur une situation donnée ou un sujet controversé. Donc, un des meilleurs exemples du cyberactivisme actuel est sans aucun doute le mouvement des Gilets jaunes, qui a pris de l'ampleur grâce à une simple vidéo postée sur Facebook en octobre 2018. Donc, comme vous le savez, cette vidéo a tiré la sonnette d'alarme et a motivé des centaines de milliers de personnes à descendre dans la rue. Donc, cet événement a prouvé la puissance des réseaux sociaux en matière de capacité à réunir les populations et à faciliter l'expression du citoyen. Donc, malheureusement, dans certains pays soumis à un régime totalitaire, où les médias sont souvent détenus par le pouvoir en place, les réseaux sociaux ont montré qu'il est possible de vaincre la censure. Donc, désormais, nous allons écouter un extrait du documentaire de Thorsten Ernst intitulé « Tous rebelles, Remain the Streets ».
Les peuples arabes se soulèvent et œuvrent pour la liberté et la démocratie. La rue est le théâtre de cette révolte et le monde assiste en direct à la chute des régimes autoritaires.
Le printemps arabe a joué un rôle déterminant. Il a influencé beaucoup de gens.
Les médias, jamais en manque de raccourcis, parlent de révolution Twitter et Facebook. Le monde virtuel tombeur de tyrans en chair et en os.
Donc en effet, l'épisode du printemps arabe est un bon exemple puisqu'il a démontré l'influence des réseaux sociaux sur les droits de l'homme. Donc malheureusement, ces différents soulèvements contre les pouvoirs en place ont été très meurtriers, mais ont permis des changements majeurs comme le départ de dirigeants autoritaires comme en Tunisie, en Égypte et au Yémen, et le changement de certaines constitutions comme au Maroc. Donc certains parlent de révolution Facebook et Twitter, comme cela est dit dans l'extrait, puisque les révolutionnaires ont utilisé les médias sociaux pour organiser les différents soulèvements. Donc on pourrait dire que sans l'avènement de ces réseaux sociaux, dans les années 2010, ces contestations n'auraient sûrement pas vu le jour. Ainsi, on retrouve aussi un effet domino, puisque les différents soulèvements relayés sur les réseaux sociaux ont permis de créer une dynamique de révolte et ont entraîné d'autres soulèvements. Donc dès à présent, je vais parler de la censure de la Chine et des limites du cyberactivisme. Donc en réaction à l'influence des réseaux sociaux dans ces conflits en Afrique du Nord, certains pays comme la Chine contrôlent désormais leurs propres réseaux sociaux et interdisent les réseaux sociaux occidentaux. Donc seulement, le cyberactivisme possède certaines limites et n'a pas toujours fait avancer la société. Donc ils peuvent s'avérer être de puissants outils de propagande et de désinformation. Donc à titre d'exemple, on peut citer l'État chinois qui en 2019 s'est servi des réseaux sociaux Facebook et Twitter, qui sont étonnamment interdits en Chine, pour discréditer le mouvement de contestation à Hong Kong. Donc bien que les réseaux sociaux aient créé des mouvements de conquête de la démocratie, la réalité du terrain est bien différente. Donc certains opposants politiques et lanceurs d'alerte ont mystérieusement disparu en Chine après avoir posté des vidéos concernant la situation liée au Covid-19. Donc enfin, on pourrait dire que les réseaux sociaux exercent une influence positive sur les conflits et ont permis de faire évoluer les régimes de certains pays. Toutefois, certains aspects sont néfastes, comme la propagande et la censure, qui peuvent être un frein à la paix dans les conflits.
Merci Clément. Merci Clément pour ta partie intéressante aussi. Alors, j'ai une première question de Léo qui te demande si le cyberactivisme est forcément lié, initialement ou ensuite, à un activisme dans notre société, donc non virtuel. Donc je comprends, est-ce que le cyberactivisme est toujours en lien avec quelque chose, une révolte, un mouvement dans le monde réel? Est-ce que ça ne peut pas concerner uniquement un activisme qui concernerait uniquement des technologies du web ou le monde virtuel numérique, c'est ça? Ok.
Finalement, on pourrait dire que le web a plutôt permis d'accélérer le cyberactivisme, puisque autrefois, on n'avait pas le web, donc on devait s'organiser autrement. Donc je pense que finalement, le web a permis de conforter les gens dans leurs idées et de pouvoir plus s'exprimer. Donc voilà.
Ok. Alors, j'avais moi juste une petite question par rapport au fait que tu expliquais que les réseaux sociaux pouvaient être utilisés par les citoyens pour s'organiser, pour essayer de changer, de faire évoluer certains régimes et les rendre plus démocratiques, dans un sens. Et donc, j'avais une question qui peut s'adresser donc à tous les cinq. Est-ce que les réseaux sociaux en eux-mêmes pourraient être plus démocratiques qu'ils ne le sont actuellement? Comment ça? Comment ça plus démocratique?
Comment ils pourraient être plus démocratiques? C'est-à-dire avoir qu'il y ait plus de règles, plus de...
Oui, ou qu'il soit par exemple pris en main par les citoyens, les citoyennes eux-mêmes. Comment est-ce que les médias sociaux pourraient, comment est-ce que les citoyens pourraient s'approprier davantage ces médias sociaux et avoir un fonctionnement plus démocratique, donc par rapport à leur gouvernance, avoir une gouvernance qui soit davantage décentralisée que les réseaux sociaux actuels? Est-ce que cela vous donne quelques idées? Eh bien, non. Eh bien, on pourra continuer peut-être sur un prochain TD. Par là, je voulais vous amener, évidemment, c'est le sujet de prédilection, vers les médias sociaux décentralisés et fédérés. Les faits divers, bien sûr. Mais bon, écoutez, ça, c'est ce qui me plaît. Donc, évidemment, je vous emmène avec moi. Bon, écoutez, on en reparlera un autre jour. Bravo à tous les cinq pour votre présentation. Bravo et merci pour votre travail. C'était vraiment intéressant pour moi, donc j'espère agréable à l'écoute aussi. Mais en tout cas, c'était un plaisir de mon côté. Alors merci à tous les cinq. On va clôturer donc cette émission que vous pourrez réécouter en podcast sur graphite.net, puis sur l'instance Peertube, aperi.tube sur la chaîne Upload. Et puis, donc, si vous êtes curieux, curieuse de ce que l'on apprend en WE1, vous pouvez venir faire un tour, bien sûr, sur librecours.net pour retrouver tous les supports de cours. Et puis sur team.picassoft.net, équipe WE1, pour venir échanger avec nous. Et je remercie encore une fois les étudiants et les étudiantes qui ont joué le jeu et qui ont posé tout plein de questions aujourd'hui sur Matin Must. La semaine prochaine, donc, ce ne seront pas deux, mais trois groupes d'étudiants que vous pourrez écouter sur Graphite le mercredi après-midi. En ce qui me concerne, j'aurai le plaisir d'animer la seconde session de présentation, donc avec Léonie, Flo, Florine, Anna, Armand et Pauline qui interviendront sur le thème des Smart Cities. Voilà. Merci à Léo pour la réalisation de cette émission. Et puis merci à tous les cinq encore une fois pour votre travail. Et bonne fin de journée à toutes et à tous.